Histoire des îles Marquises, de Akakayo Tehenua Enana, de Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Bello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Kaohanu et bienvenue dans cette 45e émission.
Édition 2023.
Alors Katahuata et Nukuhiva, l'installation française s'intensifie sans réelle perspective future quant à l'utilité de cette entreprise. L'année 1844 s'était terminée avec la mort de Yotete, ancien chef de Tahuata, la mort de Heato, grand chef de Wapo, et la mort de Niehitu, oncle de Temuan. Le 25 décembre aussi, à Tahuata, Maheono et son épouse avaient été baptisés et mariés dans la foulée. Le calme semble alors régner sur la terre des hommes. Pourtant, c'est à Taiohae, en ce début d'année 1845, que l'opposition latente des Enana va se manifester avec force. En effet, depuis plusieurs mois, Pakoko et Temuana s'affrontent quant aux relations à tenir avec les Français. Le premier souhaite qu'on déclare Taapu le troc des vivres contre de l'alcool, dont il voit les effets désastreux sur la population. Alors que son chef Temuana, un amateur d'alcool reconnu, rejette cette proposition. De surcroît, pour se venger d'un capitaine américain qu'il avait humilié, Temuana choisit de proclamer Taapu l'accès des femmes à bord des navires, ce qui a pour effet de dresser la population contre lui, tant ce que rapportent les femmes des bateaux est devenu vital pour les Enana.
Chers amis, si cette série d'émissions a été enregistrée en 2019, depuis cette date-là, j'ai découvert des documents plus récents qui m'obligent à la modifier, celle-ci aujourd'hui, le 29 janvier 2023. Les infos dont nous disposons proviennent de l'ouvrage de Greg Denning, déjà souvent mentionné, et aussi du récit d'un jeune Français ayant séjourné à Nukuhiva de 1843 à 1847. Il se nomme George Winter, et son journal intitulé « Un Vosgien tabou à Nukuhiva » a été écrit en 1885, soit 40 ans après les faits. Il nous dit qu'il était un proche des chefs de l'époque, dont Temuana et Pakoko, et aussi l'épouse de Temuana, Tahia Oko. Il se trouvait aussi avec les marins français lors de la funeste embuscade que je vais raconter un peu plus loin, et il a aussi servi d'interprète lors du procès de Pakoko. Il y a quelque temps, des amis éditeurs de Tahiti ont retrouvé en France son manuscrit original, beaucoup plus détaillé que le premier publié en 1885. George Winter avait joint une carte de Taiohae à son manuscrit, mais cette carte a disparu, sauf la légende qui l'accompagnait et qui est si détaillée que l'on peut préciser désormais l'endroit exact de l'exécution de Pakoko. Ce sont ces documents qui vont me servir maintenant à continuer notre histoire.
En janvier, des partisans de Pakoko se mettent à abattre des bovins et des moutons appartenant aux Français et qui divaguent sur leurs terres. Ils font aussi en sorte que les femmes de leur clan puissent monter en cachette à bord des navires. Contraint de soutenir Temuana, le commandant Amalric fait emprisonner les femmes, dont deux filles de Pakoko, et demande une trentaine de porcs en réparation du bétail abattu. En outre, ayant entendu dire qu'il l'avait injurié en public, Amalric exige de Pakoko qu'il vienne s'excuser en personne. Pakoko s'exécute et ses filles sont libérées. Le 22 janvier, du bétail est à nouveau abattu et une vingtaine d'autres femmes, dont les filles de Pakoko, sont incarcérées pour s'être rendues à nouveau à bord des navires interdits. Le dimanche 27 janvier, on entend Pakoko et ses guerriers chanter les chants de guerre près de leur me'ai de Ha'avao. Le 28, lendemain, lundi, dans la matinée, des soldats français arrivés de Vaitahu la veille se rendent à la rivière pour laver leur linge, inconscients du taapu qui règne sur la zone. En tout cas, les soldats français sont encerclés par les partisans de Pakoko et 5 d'entre eux sont tués. Leurs corps dénudés sont fixés à une perche, Oumio, et ils sont transportés à la manière des victimes humaines sur un me'ai où l'on dépose la tête de l'un d'entre eux. En représailles immédiates, Amalric fait bombarder la vallée de Ha'avao depuis le Blokos. Les obus de mortier tombent sur le Tohur, où une autre fille de Pakoko est en train de danser parmi les siens autour des corps des soldats. Une fois la population éloignée, Amalric fait brûler les cases, abattre les arbres à pin et détruire les fosses à mâts,
qui sont les silos enterrés dans lesquels les Marquisiens conservaient le mât, fruit de l'arbre à pin fermenté qui était la base de leur alimentation. Mélangés avec des fruits frais, ils produisaient l'apopoï, cette pâte de fruits à pain pilée, consommée par tous, tous les jours.
Pakoko passe la crête et réussit à s'enfuir chez les Hapa'a, sa tribu d'origine, mais Amalric obtient qu'on lui livre un certain nombre de ses complices de l'assassinat des soldats.
Grâce à George Winter, nous apprenons que lui-même faisait partie de ce groupe de marins français venus laver leur linge dans une courbe de la rivière qui descend de Pakiyu, qui s'appelle la rivière Vaike'u à son embouchure, et où se dressait un banyan gigantesque dont les racines obstruaient le lit du ruisseau, formant ainsi un bassin où les étrangers venaient laver leur linge. Si vous passez derrière l'évêché, vous vous trouverez exactement face à l'endroit où se trouvait ce grand banyan, l'endroit où furent assassinés les soldats français en janvier 1845. Winter a réussi à s'échapper vers le fort Colette pour donner l'alarme.
Début février, Amalric envoie une soixantaine d'hommes afin de capturer Pakoko. En voyant les soldats français apparaître en haut des crêtes, les Taipi et les Ho'umi sont pris de peur et craignent les représailles des Français. D'autant qu'une grande prêtresse, Taua, prédit une grande famine
si Pakoko ne se rend pas.
À la question qu'elle pose à l'officier de savoir si Pakoko sera mangé, le lieutenant d'artillerie porteux lui répond que non, mais qu'il sera jugé. Abandonné aussi par les Hapa'a, Pakoko promet de se rendre le lendemain. Le 21 février, le Haka'iki de Ha'avao se rend à Amalric, accompagné de 3, ou certains disent 5, guerriers Taua.
C'est aussi à cette époque-là, vers la mi-février, que Greg Denning et George Winter nous rapportent un événement qui révèle bien la tension qui régnait dans la vallée. Après avoir assassiné les marins français, les coupables se sont enfuis avec Pakoko chez les Hapa'a. Parmi eux, il y avait un homme de réputation très sauvage qui se nommait Oko ou Okotari. Et puis un jour, les Hapa'a le retournent au camp des Français, attaché, en disant au commandant Amalric qu'il avait commis des empoisonnements dans leur vallée et qu'il fallait l'exécuter. Comme le commandant Amalric avait d'autres chats à fouetter et aussi que ce n'était pas une procédure régulière, il le fait enfermer. Mais l'homme tente de se suicider en se pendant. Du coup, il est sorti de sa cellule et il est conduit à un endroit dont je reparlerai tout à l'heure, c'est-à-dire au pied d'un blocos qui se trouvait face au fort Colette afin de le protéger, et c'est là, entre le blocos protégeant le fort Colette et l'hôpital militaire qui se trouvait juste en dessous, que Okotari a été fusillé. Cela se passait à peu près à la mi-février 1845.
Courant mars, se tient le procès de Pakoko. La cour est composée d'officiers en uniforme.
George Winter nous dit qu'il agit en qualité d'interprète.
Tous siègent au fort Colette. On écoute les témoins et les accusés. Les guerriers Toa de Pakoko accusent leur chef d'avoir ordonné le massacre des marins français, tandis que Pakoko explique leur intervention sans son accord. Après 2 votes secrets, l'exécution est prononcée unanimement à l'encontre de Pakoko et de 11 autres Enana condamnés par défaut. Un des Toa de Pakoko est acquitté, les autres sont exilés à Iao. Avant d'aborder la journée tragique de l'exécution de Pakoko, laissez-moi vous rappeler un certain nombre de détails importants pour la suite. En plus du fort Colette, qui était protégé par 8 canons dirigés côté mer, la marine avait installé 2 blocos dans Taiohae même. Ces blocos sont des éléments légers de fortification en bois qui avaient été préfabriqués en France.
Le premier blocos se trouvait face au fort Colette, sur une colline, sur un monticule qui fait désormais partie du lotissement Vaioteana, juste au-dessus du temple actuel des Témoins de Jéhovah, là où autrefois se trouvait l'hôpital militaire à l'époque de Pakoko. Sa position surélevée lui permettait de défendre l'entrée du fort contre d'éventuels assaillants. Et puis, il y en eut aussi un deuxième, installé le soir même de l'assassinat des marins français, entre Pakiyu et Hiko'ei, là où de nos jours se dresse une grande croix blanche, érigée par la mission catholique dans les années 1980. C'est aussi là, côté Pakiyu, en contrebas de cette crête qui domine Taiohae de tous côtés, que résidait Pakoko, dont la maison fut détruite le soir même. Le 21 mars 1845, c'était le Vendredi Saint. Aussitôt la condamnation de Pacoco prononcée, le commandant Amalric ne veut pas faire traîner les choses. Il commande à ses hommes de conduire Pacoco sur le lieu de l'exécution, et pour cela il choisit le même lieu que pour Oco. Quand on est en haut du fort Colette et que l'on regarde le chemin qui mène à la colline du lotissement Vaioteana, on voit que c'est le chemin le plus court. À l'époque, le bâtiment de la subdivision administrative des îles Marquises n'était pas encore construit. Seul était construit le magasin général de la marine qui sert aujourd'hui de prison et la résidence de l'administrateur. Mais ce bâtiment-là, qui était destiné aux officiers, n'était pas encore construit. Donc, les hommes descendent directement du fort Colette, traversent l'endroit où se trouvent maintenant les bâtiments de la subdivision et montent directement au-dessus de l'hôpital dont j'ai parlé tout à l'heure, sur le blocos qui faisait face au fort Colette. Et c'est là, en plein après-midi, que Pacoco a été fusillé.
Refusant de se faire bander les yeux et lier les mains, il attend la salve mortelle avec satisfaction, son éventail de chef à la main. Il avait reconnu son crime
et en acceptait le châtiment réservé aux guerriers.
Il n'aurait pas aimé être pendu, disait-on.
De nos jours, cet endroit-là est traversé par la route qui passe au-dessus de la cité administrative et en dessous du lotissement Vaioteana. C'est là un jour qu'il faudra peut-être ériger un monument à la mémoire du grand chef et des 5 marins français qu'il avait fait assassiner.
La population de ces vallées et de son clan se presse sur les crêtes de l'Est, attendant en silence l'issue fatale. Le fier chef pousse un dernier « Kaoha !» puis il s'effondre sous la volée des balles. Les détonations sont suivies d'une clameur de tristesse et en signe de deuil, les femmes dénudées se mettent à hurler et danser. Seule, une canonnade met fin au triste spectacle. Après ce récit, la seule chanson qui convienne est celle du groupe Kave e Moetai, Pakoko Hakaiki, le chef Pakoko, dont Moetai est un des descendants.
Paki ue to watie, apai. Hava o e to watie, apai. Nua to pito ina nuia, pohu tu mete matea oe. Eia te toa e unune, eia te toa e unune, eia te toa e unune, io toia toto. Pakoko haka iki wa mate, pakoko haka iki wa mate, pakoko haka iki. Kiwa mate, mate nui. Ahe, he, ka oha a. Ahe, he, ka oha a. Tini tini te pai mata i tahe. Totu ia i mua o te mate. E mata e mata ka o e i koho a. Ka oha to pona te kaupa ora. Eia te toa e unune, eia te toa e unune, eia te toa e unune, io toia toto. Pakoko haka iki wa mate, pakoko haka iki wa mate, pakoko haka iki wa mate, mate nui. Ahe, haka iki waona, waona, waona iki ukiu. Hapu ia mai e to Hawaiki, hapu ia mai e to Hawaiki. E ia te toa e unune, e ia te toa e unune,
On ne sait ce qui est advenu du corps de Pakoko. Son corps a dû être récupéré par les siens et traité conformément à la dignité de son rang de Hakaik.
Depuis quelques années, à partir du puits Margay,
une marche commémorative se déroule parfois à travers Taiohae à la date anniversaire de l'exécution dont les conséquences se font encore ressentir de nos jours. Les terres de Pakoko ayant été confisquées puis redistribuées, ses descendants actuels s'efforcent de les récupérer. Après l'exécution, afin de calmer les esprits, Amalric organisa une grande fête Koika où toute l'île fut conviée. Il en résulta une concorde entre Français et Marquisiens qui dura jusqu'en 1852 et l'arrivée du commandant Ball et ses difficultés avec Temoana. Nous en reparlerons dans une prochaine émission.
Il existe une autre version de tradition orale qui raconte que l'exécution de Pakoko s'est déroulée
contre un gros rocher toujours visible derrière les bâtiments de la cité administrative de Taiohae, dont on peut même voir des photos sur Internet.
En fait, cette version est très proche de la vérité historique puisque ce gros caillou ne se trouve qu'à une cinquantaine de mètres de l'endroit officiel où Pakoko fut exécuté.
On m'a aussi raconté qu'après son exécution, les Français avaient enterré Pakoko dans une grande fosse profonde qu'ils avaient ensuite comblée de tessons de bouteilles et d'éclats de verre afin que les Enana ne puissent pas y toucher. Et pourtant, le lendemain, tout le verre avait été excavé et le corps n'était plus là.
De nos jours, dans la vallée des Hapa'a, seule une poignée de gens disent connaître l'endroit où le crâne de Pakoko, criblé de balles, repose à tout jamais.
Le 29 mars, par un courrier du père Doumer de Valparaiso au Chili, arrivé sur la corvette La Somme, capitaine Louis Alain, le père François de Paul Baudichon apprend que le 13 octobre de l'année précédente, il avait été nommé coadjuteur du vicaire apostolique de l'Océanie orientale, évêque titulaire de Basilinopolis avec la charge des îles Marquises. En mai donc, Monseigneur Baudichon se rend à Uopou afin de porter réconfort au père Escoffier et au père Réveil qui sont menacés de mort par les Enanes. À la fin du mois, il s'embarque sur la corvette Somme pour être sacré évêque à Valparaiso au Chili où il arrive le 14 août. En attendant son sacre, il fait imprimer le premier catéchisme marquisien qui fera l'admiration des Enata quand il reviendra à Tahuata
le mois de janvier suivant. Et dont j'ai eu la chance et l'émotion de pouvoir consulter un exemplaire se trouvant dans les archives de l'évêché de Taiohae.
En août, à Tahuata, alors qu'il n'est baptisé que depuis 7 mois,
Mare'ono mange la chair d'un enfant de 3 ans
et encourage les autres Enata à l'imiter. Peu avant, il avait organisé des fêtes Koika à Motopu et fait sacrifier 2 victimes à l'occasion des premières matières fécales du fils premier-né d'un autre chef. Nous avions signalé ce cas lors des émissions traitant des sacrifices humains. Le 25 novembre, c'est la première visite d'un missionnaire catholique à Hiva'oa. C'est le père Orens Freshu qui se rend à Hanauaua depuis Tahuata, où il retourne le lendemain. Une visite d'un seul jour donc. Le 21 décembre 1845, un dimanche, le père Baudichon est consacré évêque à Santiago du Chili par Monseigneur Hilarion Etura, évêque titulaire d'Agostustopolis, avec la charge du Chili. Pendant ce temps-là, aux Marquises, l'année a été marquée par une épidémie de dysenterie qui fait des centaines de morts dans tout l'archipel. Et au cours de cette même année, à Tahuata, le capitaine d'infanterie de marine Clairière remplace le lieutenant de vaisseau Brunet au poste de commandant particulier du groupe Sud-Est. Une dernière information, de 1845 à 1860, en 15 ans, on notera la présence de quelques 700 navires baleiniers dans le Pacifique. La chasse à la baleine bat son plein et les navires font souvent escale aux îles Marquises. Chers amis, l'année 1845 restera dans l'esprit des Marquisiens celle de la disparition de Pakoko. La prochaine fois, nous aborderons 1846 avec le retour triomphal aux Marquises du deuxième évêque, Monseigneur Baudichon, accompagné par d'autres missionnaires dont fait partie le père d'Ordillon,
futur troisième évêque.
Tandis que l'évangélisation avance peu à peu, l'administration française peine à trouver un véritable sens à sa présence. Encore un an, et Tahuata sera abandonné par la force armée et laissé à la gestion unique des missionnaires catholiques.
Avant de conclure cette émission, j'aimerais remercier un certain nombre de personnes qui, en plus des documents que j'ai mentionnés, m'ont aidé à trouver le chemin de cette émission. Tout d'abord, j'aimerais remercier le regretté Te'iki Heita'au Taipi Te'iki Te'etini Di Kuku, qui à l'époque avait accepté de me recevoir pour me faire part de ce qu'il avait entendu dire de l'exécution de Pakoko. J'aimerais aussi remercier Louis Teiki Hinuhatu, qui habite juste en dessous de la croix blanche dominant la crête séparant les deux vallées de Pakiyu et Hikuei, car il m'a conduit à l'endroit où cette croix avait été érigée et il m'a expliqué un petit peu ce que lui aussi avait entendu dire. Du côté du service de l'urbanisme et du cadastre qui m'a aussi aidé à l'époque, j'aimerais remercier Déborah Kimitete, Gabriel Colombani et Teiki Santos qui faisaient partie de ce personnel, qui m'ont aussi éclairé sur les noms des différents endroits concernés par l'exécution de Pakoko. Il me reste à formuler un souhait très personnel qui est de voir, dans un futur très proche, être publié, enfin, le journal de ce jeune George Winter qui couvre la période de 1843 à 1847 et qui nous apportera sans aucun doute des détails encore beaucoup plus précis et émouvants sur cette période tragique de l'histoire de la Terre des Hommes.
À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook TEO et sur mon site internet teo.com. Et encore merci au groupe KVMO et Tai pour sa chanson Pakoko Hakaiki, à la mémoire et en l'honneur du grand chef. Vous pouvez aussi l'écouter à nouveau sur mon site internet, à côté du texte intégral et de sa traduction. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, apai, o oaiho.
No te ati e nata.